Comme Yves le rappelait, et tu l'as dit aussi, Philippe, je pense que ça a vraiment du sens de parler en même temps et de la Turquie et de Calais, comme on l'avait fait avec Jean-Pierre Allaud il y a 2 mois, parce que dans ce contexte, comme tu le disais aussi, de guerre aux migrants, qui est le contexte dans lequel se déroulent et les politiques européennes et les politiques des États membres, c'est une espèce de, on assiste maintenant à une espèce de gigantesque fuite en avant. C'est-à-dire que non, on ne veut pas qu'ils rentrent, quelles qu'en soient les conséquences, c'est-à-dire on ne veut pas qu'ils rentrent, c'est-à-dire qu'il y a des routes de plus en plus dangereuses, il y a de plus en plus de morts, il y a des situations de plus en plus épouvantables, comme ce qu'on voit à Calais, à Grande-Synthe, mais aussi à Idoménie et sur la route des Balkans, et en Turquie et en Syrie. Et finalement, l'externalisation anglaise qui se passe à Calais est le pendant, le miroir, même si les choses ne sont pas tout à fait la même chose, de l'externalisation européenne qui se passe en Turquie. Alors, on en avait déjà parlé. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ce qu'on disait il y a 2 mois, c'est que les choses sont très confuses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose vraiment de ce qui se passe actuellement. On peut juste dire que, bon, après l'accord UE-Turquie qui a eu lieu le 30 novembre, qui est en échange de plus de 3 milliards d'euros promis à la Turquie, dont la Turquie d'ailleurs proteste en disant « j'en ai pas beaucoup vu » et du coup fait un chantage en disant « si vous me donnez pas l'argent, je vais ». Il y a eu des déclarations comme ça, je sais plus si c'était le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Intérieur turc, « on va inonder l'Europe sous un tsunami migratoire » qui est exactement la même chose que ce que disait Kadhafi en 2004. Enfin bon, mais il y avait ça, donc il y avait plus de 3 milliards d'euros pour qu'ils construisent des camps et pour qu'ils empêchent les migrants, et en particulier les Syriens, d'arriver en Europe, mais aussi accélérer le processus d'accession à l'Union européenne, faciliter l'exemption de visa et que la Turquie devienne un pays tiers sûr. Pays tiers sûr, ça voulait dire aussi d'autres dangers pour les opposants, pour les Kurdes, etc., de nationalité turque, puisque si quelqu'un dépose une demande d'asile en Europe en venant d'un pays qui est supposé sûr, sa demande sera acceptée beaucoup moins facilement, même examinée, et elle sera examinée de façon beaucoup plus rapide. Et, bon, ce sur quoi nous, on a insisté à Migre Europe, il y en a d'autres qui le font, mais enfin, en général, on prend qu'un des 3 aspects de la situation en Turquie. Ce qu'il est important de garder en tête aussi, c'est que c'est les mains libres laissées au gouvernement Erdogan pour enfermer les migrants et les empêcher d'arriver en Europe, mais aussi pour réprimer toute son opposition et pour bombarder le Kurdistan. Réprimer l'opposition, c'est pas le lieu ici d'en parler, mais ça vaudrait peut-être la peine un jour. C'est que, par exemple, les magistrats sont déplacés arbitrairement, les journalistes sont enfermés, les radios et les télévisions passent sous le contrôle de l'AKP, qui est le parti gouvernemental, et que plus de 2000 universitaires qui ont lancé début janvier un appel pour l'arrêt des bombardements du Kurdistan, la relance du processus de paix et des observateurs impartiaux, sont accusés maintenant par le gouvernement Erdogan d'être des terroristes. Et c'est là où on retrouve encore, je trouve, un parallèle avec ce qui se passe à Calais. Depuis 2 jours, on entend le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'OFI, Madame Bouchard, la mairesse de Calais probablement, et d'autres, dire tout ce qui se passe à Calais, les violences, les destructions, etc., c'est la faute des terroristes No Border. Ça a d'ailleurs été dit déjà il y a quelques mois, et on avait fait, il y avait eu un texte interassociatif de soutien aux No Border en disant que là, c'était la violence étatique. C'est exactement la même chose qui se passe en Turquie, c'est-à-dire que ces universitaires qui réclament l'arrêt des bombardements sont accusés d'être même des terroristes, sont mis à pied, interdits de sortir, menacés, interdits de travailler, etc. Et c'est la même chose contre le HDP, qui était ce parti qui avait eu un certain nombre de sièges aux élections de juin. Malheureusement, il en a eu moins aux élections d'octobre. Donc le jeu, les terroristes, enfin l'action terroriste du gouvernement est attribuée à d'autres. Hein. C'est bon. Ce qu'on peut dire là, donc la Turquie, peut-être qu'ils ont raison de réclamer qu'on leur donne la monnaie de leur pièce, parce que l'accord UE-Turquie a été signé le 30 novembre. Dès le 1er décembre, il y a 1300 migrants qui ont été arrêtés, pour la plupart des Syriens, mais aussi des Afghans, des Irakiens, des Iraniens. Donc on peut penser aussi beaucoup de demandeurs de réfugiés, de demandeurs d'asile potentiels, et enfermés dans des camps dont la capacité, en général, ne dépassait pas 100 personnes, donc 1300 personnes dans plusieurs camps, etc. Mais c'est à ça que va servir aussi l'argent de l'Union européenne, ce qu'on appelle pudiquement le capacity building dans la novlangue européenne, c'est de pouvoir aussi construire des camps, les militariser et surveiller électroniquement les frontières, etc. Et ce qu'on sait maintenant, alors c'est des choses très confuses, parce qu'il y a eu au début du mois de février les bombardements russes en Syrie sur la ville d'Alep et sur sa région, qui a jeté sur les routes vers la frontière syro-turque 60 000 ou 600 000 personnes, mais qui s'ajoutent à tous ces réfugiés qui sont sur les routes de Syrie. Donc Erdogan dit la frontière entre la Syrie et la Turquie est ouverte. Ça n'est pas vrai, elle est fermée. Et d'ailleurs, l'Union européenne et des gouvernements européens ont demandé à la Turquie de fermer cette frontière. Personne ne passe. Enfin, c'est des renseignements, c'est difficile à avoir des... Parce que, bien entendu, c'est des zones militairement protégées, on ne peut pas y aller, etc. Bon. Ce qu'on sait, c'est que les blessés peuvent passer. Il y a des zones de protection qui ont été créées, gérées par le gouvernement turc, qui sont des camps, en fait, mais qui sont du côté syrien, de la frontière, et là, les gens restent là et ne peuvent pas passer. En même temps, le haut représentant des Nations Unies pour les migrants demande, en même temps que la Turquie ferme ses frontières, demande à la Turquie de laisser passer les Syriens. Enfin, on est en pleine confusion, donc c'est aussi un mélange des discours qui peut aussi aider, ou plutôt ne pas aider, à faire comprendre ce qui se passe. En même temps que cette frontière est fermée, on sait aussi que les réfugiés qui sont en Syrie, en Turquie, ne peuvent pas en sortir puisque la frontière avec la Grèce est fermée. Et puisque ensuite, même pour ceux qui arrivent à passer, la route des Balkans ou la Bulgarie, c'est un enfer. Enfin, on voit tous les jours des photos de ce qui se passe à Idoménie avec les violences policières. Et c'est incroyablement troublant. Si on regarde les photos en ce moment des charges policières à Idoménie, donc à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et ce qui se passait à Calais, tu retrouves un peu les mêmes Robocop, les mêmes tirs de flashball, les mêmes tirs de gaz lacrymogène, des enfants, des gens. Enfin bon, c'est une espèce de généralisation, là, à la fois de la situation des migrants et de la violence policière et de la violence étatique. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de politique d'asile en Turquie, c'est assez compliqué la politique d'asile en Turquie. Il y a une limitation géographique de la Convention de Genève qui fait qu'en Turquie, ils ne peuvent demander l'asile que des Européens, donc il y en a certains, très peu. En gros, il y a à peu près 40 réfugiés qui sont réfugiés statutaires, comme on dit. Les autres, c'est le gouvernement turc. Enfin, c'est sur une base individuelle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou son délégué en Turquie peut accorder un statut, mais c'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Et d'ailleurs, ces gens-là sont considérés comme des invités, entre guillemets. Ils ne peuvent pas travailler. Ils sont cantonnés dans des villes satellites qui sont, bien entendu, des villes où il y a peu, où ils ne peuvent pas travailler. Les grosses villes qui ont une attractivité économique, c'est Istanbul, Izmir, Ankara. Ce ne sont pas ces villes-là. Or, ils ont des conditions très, très strictes de séjour dans ces villes. Ils doivent aller signer 3 fois par semaine. Et si jamais ils manquent un des rendez-vous, ou bien s'ils commettent un délit ou un délit administratif, ils sont exclus de toute cette protection est suspendue. Donc, contrairement à ce que peut dire... les procédures sont extrêmement longues. J'ai entendu parler d'un demandeur d'asile à Izmir, qui est un Afghan, qui a demandé, et le premier rendez-vous qu'on lui a donné pour l'interviewer constituer un dossier, c'est en 2021, c'est-à-dire dans 5 ans.
Bon, ouais, c'est un petit peu plus long qu'ici.
Attends, hein. Et puis, il y a aussi une grosse ambiguïté, enfin, grosse confusion sur... Il y a une opération militaire de l'OTAN qui est dirigée par l'Allemagne, en mer Égée. Il y a entre 3 et 5 bateaux, on ne sait pas très bien, mais on ne sait pas, en dépit des déclarations des uns et des autres, quel est exactement son mandat, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce qu'on sait, d'après les déclarations aussi, c'est que les bateaux de réfugiés à raisonner que ce soit dans les eaux turques ou que ce soit dans les eaux grecques, vont être renvoyés en Turquie pour ensuite être expulsés. Et ce pas plus tard que ce matin, on apprenait qu'un groupe de réfugiés qui était entré en Grèce par la Turquie ont été renvoyés en Turquie et on annonçait, ça c'était lundi, et on annonçait pour aujourd'hui, donc c'est un article que j'ai lu ce matin, qu'on allait en renvoyer 300 en Turquie, qui ensuite éventuellement les expulsera ailleurs. Enfin, c'est,
voilà, en sachant voilà. qu'il y a quand même plus de 2 millions de...
Il y a pratiquement 3, oui, entre 2 millions 5 et 3 millions de réfugiés en Turquie. Et contrairement à ce que dit le gouvernement turc, d'après un rapport de l'association Human Rights Watch, plus des 70% d'enfants de cette population de réfugiés n'ont pas droit, ne sont pas scolarisés, alors qu'ils y ont droit selon la loi turque, tout simplement parce que le système scolaire turc, comme le système de santé turc, est en déshérence. Donc c'est une situation à suivre, mais qui, à mon avis, enfin comme Calais, comme Idoménie, comme le reste, je ne vois pas comment ça ne peut pas encore empirer, et on va essayer d'en savoir le plus possible. Et on vous tiendra au courant. Voilà, je voudrais juste faire un peu de pub, mais tu pourras le mettre sur le site. Il y a dans le numéro 140 de CQFD, qui est un excellent journal, un très bon dossier sur la Turquie, dont les articles sont petit à petit mis en ligne sur le site. Et en particulier, il y a un article sur la sous-traitance par la Turquie de la question migratoire, qui s'appelle « Loin des yeux, loin du cœur », qui est une des définitions de l'externalisation.
Voilà, et puis donc maintenant, je vois que les oreilles loin du front sont installées dans le studio, qu'il nous reste à peine 2 minutes pour présenter notre agenda. Donc il y a eu beaucoup de choses encore à dire, et sur Calais, et sur la Turquie, et sur les CAO, notamment le sort qui est fait aux 300 gamins qui sont isolés, qui étaient dans le bidonville de Calais, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Et pour aller plus loin, donc on peut aller sur ton blog, un passeur d'hospitalité, qui est quand même une source essentielle, fondamentale, pour s'informer sur Calais.
Plusieurs fois, pas que sur Calais d'ailleurs, mais plusieurs fois par jour. C'est époustouflant.
Hein. Tu parles de lundi.
Pardon, oui, bien sûr. Donc tout de suite notre agenda, en allant le plus vite possible.